L'invité de la rédaction.
Avec l'invité de la rédaction aujourd'hui, nous allons parler justement de la situation face au coronavirus et au regard justement de l'actualité qui nous préoccupe. Quand on sait qu'en Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou s'est exprimé justement hier depuis Jérusalem pour annoncer de nouvelles mesures de restriction dues à une hausse significative des cas de coronavirus dans le pays. La flambée de l'épidémie se poursuit également outre-Atlantique. Au moins 53 069 nouvelles infections au Covid-19 ont été recensées dans le pays en 24 heures. C'est un niveau record depuis le début de la pandémie. En Amérique latine et aux Caraïbes, la situation reste également très inquiétante, notamment au Brésil, où plus de 1000 morts ont encore été enregistrés en 24 heures, faisant passer le bilan au-dessus des 60 000 décès selon le ministère de la Santé. Quand en France, toutefois, selon le dernier bilan hebdomadaire de Santé publique France, les indicateurs sont rassurants et ne montrent pas une reprise de l'épidémie. Le nombre d'hospitalisations et de décès continue en effet de baisser, mais justement, peut-on dire pour autant que la crise sanitaire soit derrière nous ? Pour en parler, Patrick Berche avec côté, médecin, professeur de microbiologie, doyen de la faculté de médecine de Paris Descartes, auteur de plusieurs ouvrages grand public et qui permettent justement de se familiariser avec la médecine et les microbes, une histoire des microbes notamment et l'histoire secrète des guerres biologiques. Patrick Berche, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui donc pour évoquer cette situation somme toute assez paradoxale où l'on parle à la fois de cette flambée d'un nombre qui n'a jamais été aussi important de cas de coronavirus dans le monde et en même temps ce qui nous semble être l'épreuve d'un dépassement de la crise sanitaire en Europe. Comment vous considériez en tout cas à l'échelle internationale aujourd'hui, comment vous décririez l'état de la pandémie mondiale qui évidemment secoue la planète depuis des mois ?
À l'échelon mondial, elle est en pleine ascension, en particulier en Amérique du Sud, dans l'hémisphère sud surtout, mais également en Amérique du Nord. Mais en Amérique du Nord, c'est dû essentiellement à l'absence de stratégie et de ligne directrice des autorités, les messages contradictoires, et puis, il faut le dire, l'attitude d'une partie de la population très hostile au confinement et hostile au port de masques qui mettrait en jeu leurs droits constitutionnels. Donc on a une pandémie qui est assez bien maîtrisé pour le moment en Europe, mais le virus continue à circuler et pourrait revenir à l'automne, et une situation absolument pas maîtrisée, par exemple en Amérique du Nord, où on a déploré 50 000 nouveaux cas en une seule journée, et où certains spécialistes pensent que ça pourrait atteindre beaucoup plus si on continue comme ça. Le confinement, c'est le seul moyen d'arrêter le virus.
C'est-à-dire, si je résume, donc, en l'état actuel, c'est toujours une pente et une courbe ascendante. Si on regarde à l'échelle du monde, la pandémie ne s'est absolument pas arrêtée.
Absolument. À l'échelle du monde, la pandémie a sa temporalité. Après avoir frappé la Chine, puis l'Europe, elle frappe maintenant l'Amérique latine et l'Amérique du Nord. Et elle semble ne pas être contrôlée dans ces pays.
Mais alors donc, ce que vous nous dites aussi, c'est que, en effet, est-ce qu'on peut dire, comment décrire, avec justement à l'aune de vos connaissances et de votre expertise là-dessus, est-ce qu'on peut dire que la pandémie est dépassée en Europe ?
Alors, ce qui s'est passé en Europe est assez simple. Nous avions une vague ascendante et elle a été brisée en quelque sorte par le confinement. Et il faut remarquer qu'en France, et dans d'autres pays, elle a été très très bien suivie, la population a très bien suivi le confinement, et on voit par exemple que la moitié de la France, tout l'Ouest a été épargné grâce au confinement. Ce n'est pas le cas par exemple au Royaume-Uni, où l'ensemble du pays a été atteint parce qu'ils ont ils n'ont pas fait le confinement immédiatement, ils ont attendu 15 jours ou 3 semaines avant de confiner, ce qui a permis l'extension à l'ensemble du pays. Donc on a brisé en quelque sorte la première vague, mais nous sommes toujours dans la première vague avec un virus qui circule et un virus qui peut remonter à l'automne. Cela dit, je ne pense pas qu'on soit obligé de retourner au confinement, car la population est maintenant toute très bien éduquée, elle connaît les gestes barrières. Nous avons surtout des masques, des tests et tout l'accompagnement de cette épidémie. Donc je pense, en France, je pense qu'on pourra maîtriser. Alors évidemment, il y a la possibilité d'importer à nouveau le virus, mais comme il circule déjà dans notre pays, le danger international est plus faible.
Comme on peut le voir, Patrick Berche, vous le mentionnez, ces idées de deuxième vague, de persistance à bas bruit. Est-ce que de toute manière, d'une manière ou d'une autre, on a une capacité d'anticipation sur l'avenir d'une et l'évolution d'une pandémie? Est-ce que, en dehors de ce que vous indiquez être la mise en place de ces gestes barrières et finalement d'une meilleure expertise globalement de la population par rapport au mode de contamination, est-ce qu'on a des outils véritablement qui permettent d'estimer ce qu'il en sera dans quelques semaines, dans quelques mois?
Alors, il y a des outils mathématiques, mais il faut être prudent avec l'utilisation de ces outils. Il est difficile de savoir quel est le génie évolutif de ce virus, puisque c'est la première fois que nous avons à l'affronter. Je pense qu'il faut de toute façon rester prudent, et j'ajouterai dans les mesures qu'il faut absolument protéger les personnes vulnérables, car la mortalité, je le rappelle, c'est surtout chez les personnes de plus de 65 ans, 9 morts sur 10, et c'est chez les personnes fragiles, par exemple les diabétiques de type 2, les personnes avec un surpoids ou une obésité, et les personnes hypertendues. Donc ça fait plusieurs millions de personnes quand même. Donc il faut toujours garder à l'esprit, quand on se dans le comportement, je dis ça aussi pour les jeunes, que en propageant le virus, évidemment les jeunes ne risquent pas grand-chose, mais ils risquent fortement de le communiquer à des personnes fragiles, et c'est elles qu'il faut protéger. Donc, d'un point de vue technique, en Europe, on maîtrise assez bien la situation, on a des foyers multiples parce qu'on certainement on détecte plus. On peut espérer qu'on aura une résurgence moyenne ou faible, et on peut espérer ensuite que le vaccin apparaîtra, le vaccin permettant une immunité collective qui stoppera la circulation du virus, car les gens immunisés ne propagent plus le virus et sont protégés, bien sûr.
Et alors, Patrick Berche, est-ce que dans ces scénarios-là est pris en compte la possibilité de mutation du virus? Et je cite là justement une étude qui est parue hier dans la revue Cell et qui indiquait que maintenant il était démontré par exemple que la souche du virus qui circule en ce moment aux États-Unis et qui est venue d'Europe n'est pas celle qui circulait par exemple en Chine, et que cette souche s'avère plus contaminante et plus facilement transmissible que celle qui était en Chine, ce qui d'ailleurs éclairerait d'une certaine manière les débats qui ont lieu aussi autour du nombre de personnes contaminées dans un pays ou dans l'autre. La mutation donc d'un virus, Patrick Berche, est à prendre en compte dans les scénarios à venir?
Oui, évidemment, le coronavirus est un virus à ARN qui fait des mutations, et on sait depuis le début de l'épidémie qu'il y a des mutations un petit peu partout sur le virus, mais qui ne semblaient pas jusqu'ici atteindre la virulence et la contagiosité. En d'autres termes, le virus chinois se comportait comme le virus européen et comme le virus en Amérique du Nord. Ce qui permettrait de dire qu'il y a une augmentation de virulence, c'est par exemple l'augmentation de la mortalité chez les personnes jeunes. Entre 20 et 50 ans, il n'y a pratiquement pas de mortalité, sauf chez des personnes fragiles. Et pour le moment, on n'a pas d'indication de cette augmentation de la virulence. Cela étant dit, dans des pays comme en Amérique latine et puis peut-être bientôt en Afrique ou en Inde, le passage itératif du virus n'exclut pas qu'il puisse modifier ce que nous appelons dans le jargon son phénotype, c'est-à-dire sa virulence ou sa contagiosité. Cela étant dit, le virus a des systèmes, a cette singularité d'avoir un système de réparation de son ARN qui peut prévenir une évolution catastrophique. Nous ne sommes pas dans le cas du virus de la grippe qui mute énormément et qui a donné dans le passé, au cours de la grippe espagnole par exemple, des variations brutales de virulence qui ont été catastrophiques pour la grippe espagnole en 1918.
Comme justement, c'est ça qui est extrêmement intéressant dans votre expertise sur cette pandémie, Patrick Berche, c'est que vous êtes un historien aussi des pandémies. Est-ce que nous avons quelque chose à apprendre justement de ces grandes épidémies du passé? Qu'est-ce que nous pouvons en tirer pour se demander, justement pour savoir quand est-ce que par exemple un mal est passé, quand est-ce que il n'est plus justement à prendre en considération dans un quotidien d'un pays? Quels sont les enseignements des épidémies passées?
Alors, il faut, dans ces enseignements, il faut savoir aussi que on ne peut pas plaquer le modèle de la grippe, par exemple, avec le modèle du coronavirus. Vous savez, au début de l'épidémie de coronavirus, de SARS-CoV-2, on a eu une difficulté avec les enfants. Comme dans la grippe, on pensait que les enfants étaient contagieux. Or, on s'est aperçu, par plusieurs études, que les enfants sont très peu contagieux et qu'on peut les laisser aller à l'école avant 10 ans. Mais ça, on ne le savait pas. On pensait aussi que le virus pouvait beaucoup plus muter qu'il ne mute. Vous voyez, on avait ces idées préconçues. Alors, cela étant dit, quand on considère par exemple la grippe espagnole qui est ou les deux autres importantes pandémies, celle de 57 et celle de 68, on voit que en général, il y a une résurgence ou deux résurgences. Dans la grippe espagnole, il y a eu deux résurgences et ensuite le virus ne disparaît pas, mais disons devient très peu virulent et continue à être propagé dans la population sans beaucoup de risques. C'est ce que nous appelons la grippe saisonnière qui chaque année entraîne quand même 6 à 8 000 morts. Et là, nous sommes en présence d'un coronavirus dont la mortalité globale est de 0,7% et qui entraîne donc 7 fois plus à peu près de morts que la grippe saisonnière. Mais... donc là, nous sommes actuellement à 30 000 morts environ, mais il y aura à compter tous les morts à domicile et les morts qui n'ont pas été répertoriés à partir des certificats de décès. C'est ce que nous appelons la surmortalité. Et il y aura environ 10 000 personnes, malheureusement, en plus, qui seront à mettre au bilan de cette pandémie.
Mais la saisonnalité, c'est donc le devenir le plus évident de tout, d'un virus comme celui-là, la saisonnalité.
Alors, pour le virus de la grippe, c'est systématiquement dans toutes les pandémies, les quatre pandémies, on a connu finalement quatre pandémies depuis 1918, en comptant celle de 1918, c'est toujours devenu saisonnier. Alors là, on pense que tant qu'on n'aura pas l'immunité collective, on aura certainement une circulation du virus à bas bruit. Et le virus, à ce moment-là, s'adapte progressivement à l'espèce humaine en devenant de moins en moins virulent, ce qui est pour lui une condition de survie. Moins il est virulent, plus il peut se propager sans donner beaucoup de dommages. À l'instar, par exemple, des coronavirus, il existe quatre autres coronavirus bénins, responsables de rhumes de cerveau, responsables d'angines, qui circulent dans la population humaine avec des vagues tous les 2 à 3 ans. Donc on peut espérer que les gens qui ont été contaminés vont être protégés pendant 2 ou 3 ans, ou moins peut-être, mais que dès qu'on va vacciner, à ce moment-là, on arrêtera la propagation du virus et peut-être il s'éteindra ou il perdurera, mais on ne peut pas le dire, hein, personne ne peut le dire.
Et par ailleurs, puisque c'est à l'aune aussi de ce que nous sommes en train de vivre, que nous pouvons nous interroger sur ce rapport au passé, quant à la manière de réagir aux pandémies, je ne sais pas si vous avez suivi les auditions qui ont lieu actuellement à l'Assemblée nationale sur justement l'enquête sur les différentes... sur la gestion de la crise en France. Avez-vous suivi ces auditions et est-ce que quelque chose doit nous en être... avons-nous quelque chose à en apprendre sur la manière finalement d'aborder les pandémies? Est-ce que nous tirons justement suffisamment d'enseignements de l'expérience, même quand elle est très présente, même quand elle est aussi brutale que ce que nous avons vécu là? Est-ce que vous croyez en cet apprentissage et en ces effets plus ou moins immédiats?
Oui, j'ai suivi les auditions. Je dirais simplement que, pour résumer, d'abord, je ne jetterai la pierre à personne. Personne ne s'attendait à cette pandémie. On peut peut-être le reprocher, mais c'était vrai pour pratiquement tous les pays du monde, et en particulier tous les pays européens. Donc, jeter la pierre est facile. Deuxièmement, on est parti de considérations économiques dans les 10 ou 15 dernières années, en restreignant les possibilités du système de santé, en restreignant les masques, parce que ça coûte cher à entretenir, et qu'on ne voit pas on n'avait pas eu vraiment de pandémie très importante depuis 1918 et on ne voit pas les économies qu'on peut faire en dépensant de l'argent. Là, ça va nous coûter plusieurs centaines, des dizaines de milliards d'euros, beaucoup plus que d'entretenir un stock d'un milliard ou de 800 millions de masques. Donc on a été totalement dépourvu au départ. Ensuite, je pense que la stratégie qui a été suivie par le gouvernement était bonne, parce que on a confiné et on a finalement cassé complètement la première vague et par là même épargné des dizaines de milliers de vies. Parce que les mathématiciens, les statisticiens prévoyaient 300 000 morts en France. Donc je pense qu'on a assez bien managé. Mais on s'est retrouvé dépourvu devant cette pandémie où nous n'avons pas de traitement, pas de vaccin, et où on n'avait pas de masque, et pas de ou très peu de masques, et on n'avait que les mesures barrières, comme en 1918. En 1918, on était exactement dans la même situation. Donc à l'avenir, je pense que on sera beaucoup plus vigilant sur les mesures barrières, qui sont la seule façon d'arrêter une épidémie qui se transmet par voie respiratoire, et quand on n'a aucune connaissance du virus. Il faut souligner aussi, au cours de cette épidémie, que, évidemment, il y a eu des controverses scientifiques nombreuses, etc., ce qui est normal, ça fait partie du débat qu'ont les scientifiques habituellement, mais qui ont été en quelque sorte regardés à la loupe à cause du contexte. Mais la science n'a jamais été aussi vite. Il a fallu 2 ou 3 ans pour identifier le virus du sida. Il a fallu 2 ou 3 semaines pour identifier le coronavirus, le nouveau coronavirus, et voir ses caractéristiques assez vite, finalement. Donc, la science marche très vite. Peut-être aura-t-on bientôt un vaccin qui nous permettra de sortir de cette pandémie, je dirais presque de ce cauchemar.
Retrouvez l'invité de la rédaction sur radio-rcj.info.